Bonsoir à tous. Le chef de l'État s'est adressé mardi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès sur l'état de la nation. Dans son allocution, Joseph Kabila a notamment salué l'accord issu du dialogue ainsi que ceux qui l'ont signé. Il regrette cependant que le rassemblement ait manifesté peu d'intérêt à la résolution de la crise politique par le dialogue malgré les louables efforts de la CENCO. Entre-temps, le président de la République a nommé Sami Badibanga comme premier ministre hier jeudi, une nomination conforme à l'article 17 de l'accord issu du dialogue. Voici le thème de la tribune de presse de ce vendredi 18 novembre 2016 et je m'en vais saluer Claude Moliche. Bonsoir.
Bonsoir Berry.
Vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC et vous êtes aussi coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Stanislas Boujakira, bonsoir.
Bonsoir Berry.
Vous êtes journaliste à la RTVS1, une chaîne privée émettant ici à Kinshasa et puis au téléphone Dimanche Kamate. Bonsoir.
Avec plaisir, bonsoir Berry, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous êtes journaliste à la radio communautaire Moto Oisha, émettant depuis Beni au Nord Kivu. Et je dis aussi bonsoir à Jean-Claude Siala, qui assure la mise en onde de cette édition. Et pour commencer, voici la revue de presse qui porte la signature de Guy Maté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. La nomination de Sami Badibanga au poste de Premier ministre et l'adresse du chef de l'État devant les congrès ont occupé une des journaux quinois. Ainsi, la tempête des tropiques estime que, comme à tant d'autres adresses aux deux chambres du Parlement réunies en congrès dans le passé, Joseph Kabila n'a pas répondu aux attentes des Congolais. Et ce quotidien du boulevard du 30 juin affirme que l'homme de la rue désirait de mieux comprendre ce qui se passe au pays, se demande si la censure qui frappe les médias étrangers en RDC s'est étendue au discours du chef de l'État. Et la tempête des tropiques qui souligne qu'alors que le peuple congolais attendait de lui toute la vérité sur le présent et l'avenir immédiat de la République, Joseph Kabila a présenté un bilan truffé d'éloges sur ses 15 années passées à la tête du pays, 15 années de faits et gestes qui paraissaient et paraissent encore de nos jours aux yeux de tous comme des nuages qui n'apportaient pas de pluie. De son côté, Forum des As se demande et si Kabila n'avait pas tort, et ce journal de répondre que les articles 103, 105 et 70 de la Constitution donnent raison au président de la République lorsqu'il déclare dans son discours sur l'état de la nation du 15 novembre 2016 ceci: quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur des journées de mon avenir politique, je tiens à leur dire, tout en les remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Fin de citation. RDC, devant les congrès, Joseph Kabila reste vague sur son avenir politique, note Jeune Afrique. Sami Badibanga, nouveau Premier ministre, annonce 7 sur 7 points CD qui s'exclame « c'est la surprise du chef ». Personne ou presque ne l'avait vu venir. Et ce site de rappeler que Sami Badibanga a été nommé jeudi 17 novembre Premier ministre par le président Joseph Kabila. Il sera ainsi le 23e Premier ministre de la RDC. L'IDPS Sami Badibanga a été préféré au favori des pronostics Vital Kamerhe pour succéder à Matata Ponyo, rappelle ce site qui annonce que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a félicité le nouveau Premier ministre Sami Badibanga. Forum des As revient pour sa part sur l'assassinat d'un journaliste à Mbujimayi. Et titre, Mbujimayi, un journaliste de la télévision nationale abattu à son domicile par des hommes en armes. Ce quotidien précise que le journaliste a été abattu de sang-froid mardi 15 novembre 2016 vers 1h du matin par un groupe d'hommes armés et en tenue militaire qui ont pris d'assaut sa résidence. Après avoir maîtrisé tous les membres de sa famille, ils ont ligoté son épouse devant les enfants. Voulant se sauver, Marcel Loubal a tenté de prendre la fuite. C'est alors qu'il a reçu 3 balles qui l'ont atteint au cou et sur le ventre. Après l'avoir abattu, ces tueurs ont rapidement ramassé son corps, baignant dans le sang, qu'ils ont traîné dans sa chambre à coucher, disant à sa femme « enfin, on l'a eu ». Journaliste en danger, Jed est profondément choqué par cet énième assassinat d'un journaliste en RDC. Pour Jed, il n'y a aucun doute que Marcel Loubala Kalala a été victime d'un règlement des comptes. C'est sur ce drame que nous terminons notre revue de presse.
Merci Guy Maté, vous l'avez entendu et c'est d'ailleurs par ça que nous allons commencer la tribune de presse d'aujourd'hui. La RTNC est en deuil. Marcel Loubala, journaliste à la station provinciale de Mbujimayi, a été abattu dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier Kajiba commune de la Mouya. Il a été atteint par 2 balles au moment où des individus non autrement identifiés tentaient d'ouvrir la porte de sa maison pour y pénétrer. Claude, vous êtes de la RTNC. Avez-vous connu Marcel Loubala?
J'ai connu Marcel Loubala. J'étais membre Jumaï l'année dernière, au mois de novembre, lorsqu'on a lancé les avions. M. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Moi, j'étais affecté à Mbujimaï pour couvrir cet événement. Et j'ai rencontré Marcel Loubala Kalala, qui est vraiment un ami. On échange avec lui de temps en temps au téléphone, même si je suis à Kinshasa. Ça me fait très très mal, très mal. Et nous, au niveau du communiqué du troisième lénaire, nous avons réagi. On s'est réunis pour se prononcer sur cet assassinat. S'il s'agit de bien d'assassinat, parce que c'est prémédité, les gens sont venus en groupe. Un groupe est entré dans sa résidence.
Est-ce que c'est un règlement de compte?
S'il y a des indices qui indiquent que ça devrait être un règlement des comptes, parce que on a arrêté 5 suspects qui sont déjà en train d'être interrogés et on en saura dans les heures, si pas les jours qui viennent.
Voilà, Stanley Boujakira, le ministre provincial de l'Intérieur a déclaré à Radio Capi, je cite, certains membres de la bande présumés auteurs qui sont déjà dans les filets de la police, ils seront jugés publiquement et nous allons veiller à ce que la loi soit appliquée avec toute sa rigueur. C'était une citation que je referme et pensez-vous que la justice fera bel et bien son travail comme il se doit?
D'abord, je suis très choqué par cet assassinat de notre confrère Loubala. Et deuxièmement, ça intervient à quel moment? C'est au moment où il y a un couvre-feu qui a été décrété dans la ville de Mbujimaï. Et on ne comprend pas. Je pense que le couvre-feu, c'est à partir des 18h jusqu'au petit matin. Mais là, cet assassinat est intervenu
dans la nuit.
Où était la police? Où étaient les forces de l'ordre? Où étaient les forces de sécurité? Alors, il y a toutes ces inquiétudes, il y a toutes ces questions. Et quand le ministre provincial va déclarer qu'ils seront jugés, regardez, on connaît ici au pays, on a déjà l'habitude que quand les enquêtes sont lancées,
ça ne produit pas des fruits comme il se doit.
Il n'y a pas de résultats. Donc, c'est vraiment désolé, malheureux. Moi, je pense qu'on doit plutôt prévenir que de constater après les dégâts. Donc, et moi, je dirais, nous, journalistes, on a juste le micro, on a juste le stylo, on a juste la plume. Donc, pour faire notre travail, s'il y a des règlements des comptes, et cela ne va pas faire avancer la liberté d'expression dans notre pays.
Dimanche, peut-on dire qu'avec cet assassinat du journaliste de la RTNC, le problème de la sécurisation du journaliste se pose dans un contexte comme celui-ci en RDC?
Tout d'abord, Monsieur Berry Franklin, un petit collectif. Actuellement, je travaille à la radio-télévision Mungano Oita. Je vais d'abord commencer à présenter nécessaires condoléances à cette famille du journaliste qui a été abattu. Mais une chose qui me pique au cœur est de constater qu'après la mort des journalistes, il faut commencer à dire que les enquêtes sérieuses seront menées. Moi, je me dis, avant, quand il était encore à vie, pourquoi ne pas assurer sa protection? Donc, il n'est pas toujours bon de dire, voilà, après la mort de tel, on va mettre en place des enquêtes sérieuses. Donc, cette histoire-là ne m'achante pas. Et donc, nos autorités doivent fournir les efforts pour voir comment protéger les journalistes, surtout que celui-ci, c'est un homme qui est doté de la bonne volonté, c'est un homme qui est doté du courage. Il se réveille le matin pour revenir tardivement dans la soirée, et c'est ici dans l'objectif de former, et donc les autorités doivent fournir les efforts pour protéger les journalistes, au lieu de nous distraire avec les enquêtes sérieuses qui malheureusement ne peuvent pas permettre à ce que la personne puisse encore exister.
En presque une minute, dites-nous qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui chez vous?
Oui, ce qui fait l'actualité chez nous en territoire de Béni, c'était avant-hier, il y a eu affrontement sur la route Béni-Kamago entre FARDC et les présumés rebelles de la DEF, et en croire les porte-parole de l'opération Sokola 1 Nord et puis Sud, le monsieur Mike Azoukai, un élément ADEF serait topé.
Merci beaucoup, Dimanche. On revient ici à Kinshasa pour reparler encore, toujours dans le domaine de la presse, de la coupure du signal du RFI. Ça fait aujourd'hui 13 jours exactement que le signal du RFI n'émet pas ou n'aimait plus à Kinshasa. Le signal a été coupé dans la nuit du vendredi à samedi 5 novembre dernier lorsque le rassemblement avait planifié un meeting d'Étienne Tshisekedi sur le boulevard Triomphal. Entre-temps, le signal de Radio Kapi a été, lui, brouillé pendant cette période-là, ici à Kinshasa. Claude, comment vous expliquez que le signal de RFI soit toujours coupé jusqu'à ce jour?
Voilà, jusqu'à présent, nous attendons des explications techniques du côté de l'autorité de tutelle, parce que il y a des petits problèmes d'ordre administratif.
Lesquels?
Il y a un problème du respect des contrats, RFI, qui a signé, Média Monde, hein. Maintenant, c'est RFI qui travaille avec, en commun accord avec...
Et subitement, le gouvernement se réveille pour dire qu'il y a un problème de contrat ou problème administratif avec RFI, tout
voilà
ce temps-là,
ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous devons toujours attendre la voie officielle pour nous éclairer sur cette question-là. Mais ici, il faudra dire que la RFI ne doit pas fonctionner hors normes. C'est-à-dire, il faut présenter les faits avec beaucoup de responsabilités. Parce que nous constatons que RFI est en train de...
En parlant de la marche du rassemblement, vous pensez que ce n'est pas de la responsabilité?
Non, ce n'est pas parler de la manifestation de la marche du
rassemblement. Radio Kapi en a parlé aussi.
Oui, tous les médias, même la RTNC en a parlé. Non, le 5 novembre dernier...
Vous attendiez que RFI fasse
non.
quoi
après, quand par, vous, par, avez, par vous êtes sur le terrain des événements, il faut savoir d'abord sélectionner les informations.
Donc, il est temps de vous donner à RFI.
Dans les choix dans la responsabilité. Je ne donne pas une leçon à RFI, mais les RFI doit rester dans les principes de son contrat, et le contrat a été signé avec le gouvernement congolais.
D'accord, merci. Je sens déjà que Stanislas n'est pas très d'accord avec vous, Claude. Stani, pensez-vous qu'avec cette coupure du signal du RFI, il s'agit là de la politique de museler la presse en général dans notre pays?
C'est clair, c'est bien ça. Il y a une inquiétude. Pourquoi on va seulement toucher? Je ne dis pas que nos médias ici en RDC n'ont pas eu une forte audience, mais pourquoi seulement on doit viser ces deux médias qui ont aussi une très forte audience? Je parlais de la Radio France Internationale ainsi que de la Radio Kapi. Pourquoi seulement en cette période? Qu'est-ce qui se cache derrière la coupure des signaux de ces deux médias? Pourquoi seulement ce moment? Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a certainement certaines choses où le gouvernement avait seulement censuré certaines informations ou censuré que l'information n'est
pas... Mais on dit qu'on attend des éléments techniques.
Malheureusement, ce n'est pas ça. C'est totalement faux tout ce qu'il est en train de dire là. Il le sait très bien que chaque matin, chaque soir, RFI et Radio Kapi nous donnent des bonnes informations comme toutes les autres radios. Ici à Kinshasa, peut-être que sa chaîne ne donne pas. Je ne vais pas parler de la RTNC, mais je pense que et la Radio Kapi et la RFI nous donnent des très bonnes informations. L'opposition a la parole, la majorité a la parole, la société civile également. Si la RTNC ne donne pas la parole à l'opposition, où est le problème?
Merci donc, beaucoup. Alors,
je pense qu'on doit, on doit rouvrir, on doit relancer les signaux de ces deux médias.
Très bien. Alors, dimanche, vous pensez aussi que RFI devrait se plier devant le pouvoir pour que son signal soit rétabli?
Moi, je ne dors jamais sans suivre les informations des radios France Internationale, Radio Okapi. Vous savez bien, vous savez, quand on est au stade, ceux-là qui ne savent pas jouer ne visent que casser les jambes des bons joueurs. Et donc, à ce stade actuel, je suis en train de me demander quelle faute la RFI a commise, quelle faute Radio Okapi a commise. Ça prouve en suffisance que les mauvais joueurs ne se sentent pas à l'aise de voir les bons joueurs réaliser des bons scores. Et c'est ça l'image que reflète actuellement la RDC. Et donc, brouiller les signaux des radios Okapi, couper les signaux des radios France Internationale, c'est une manière de museler la presse. Ce que nous, Congolais, nous devons dénoncer, car on ne peut pas demander à tout le monde de fermer sa bouche durant toute une journée.
Merci beaucoup. Avant de commencer notre premier thème de ce soir, je rappelle pour ceux qui viennent nous prendre en cours que Claude Moli-Chokaïm et journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise et aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Stanislas Boujakira est journaliste à la RTBS 1, une chaîne privée émettant à Kinshasa. Et Dimanche Kamate est journaliste à la radio communautaire Mungano Oisha, émettant depuis Beni dans la province du Nord Kivu. Ce sont là les trois invités de la tribune de presse de ce soir que présente Berry Franklin Luchaka, et nous entrons déjà dans notre premier thème de ce soir. Le chef de l'État s'est adressé mardi devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Joseph Kabila se dit disposé à faire appliquer l'accord découlant du dialogue politique. Il met en garde tous ceux qui tenteraient de déstabiliser les institutions et rassure que la Constitution avait déjà réglé la question de son avenir politique. Les grandes lignes du discours de Joseph Kabila avec vous, Michel Kifinda.
C'est un discours de 45 minutes, haché à plusieurs reprises d'applaudissements, d'encouragements et de slogans de soutien à Joseph Kabila. Le chef de l'État a tout d'abord dressé un bilan général de son action depuis son accession au pouvoir en 2001. Il a ensuite abordé la question de l'organisation des élections et toutes ses péripéties, puis s'est enfin appesanti sur son avenir politique. Avant toute analyse, le président Kabila a fait un rappel de la situation chaotique dans laquelle il avait trouvé la RDC au moment où il accédait au pouvoir en 2001. Il invite donc à la préservation des acquis de la paix et de la stabilité chèrement acquises. À propos du dialogue politique, le chef de l'État prend l'engagement de faire appliquer strictement l'accord qui en est découlé. Il invite à cet effet la frange de l'opposition qui hésite encore de rejoindre le train en cours. Tout en réaffirmant sa détermination de tout mettre en œuvre pour faire échec à tous ceux qui tenteraient de déstabiliser les institutions, Joseph Kabila rassure que la Constitution sera bel et bien respectée en ce qui concerne son avenir politique.
Merci Michel Kifinda, c'était ça l'ambiance du mardi 15 novembre dernier à Kinshasa au Palais du Peuple. C'était un discours vraiment applaudi par la majorité et l'opposition ayant participé au dialogue et décrié par le rassemblement et la dynamique de l'opposition de plateformes n'ayant pas participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Première question à vous messieurs, comment vous avez analysé le discours du chef de l'État? Très rapidement, Claude.
Voilà, le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, a donné des explications claires sur la vie de la nation. Vraiment,
c'est-à-dire?
Il a abordé tous les aspects de la vie et cela conformément à la Constitution. Vous savez que c'est une exigence constitutionnelle.
Oui.
Une fois là, le chef de l'État doit se prononcer sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies.
Il était positif, mitigé ou négatif?
Non, le chef de l'État a tenu un discours réaliste et responsable devant l'opinion. Il a parlé de la vie de la nation depuis 15 ans, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2001.
Très bien.
Et il a donné les indications et là où il veut amener le Congo. Et il va là où il veut amener le peuple congolais. Et il a donné des explications même sur sa vie politique, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions s'il sera candidat ou pas.
Très bien, on y revient.
La question est réglée dans la Constitution. Et il a parlé également de la stabilité des institutions en place.
Très bien. On va revenir avec vous. Stanislas, vous avez entendu Claude dire que c'était un discours réaliste et responsable. À votre avis.
Jusqu'ici, je n'arrive toujours pas à comprendre cette précipitation. Pourquoi on a précipité ces discours? D'habitude, le président tient son discours sur l'état de la nation. C'est au mois de décembre et presque chaque
15 ou 18 décembre.
Mm-hmm. J'ai pas compris cette précipitation.
Et
autre question, bon, c'est généralement c'est au mois de décembre, mais ici ça s'était dit au mois de novembre. J'ai pas compris cette précipitation. Et autre chose, bon,
mais c'est quand même constitutionnel.
Non, peut-être parce qu'il est à un mois de son dernier mandat, bon, peut-être ça. Mais alors, je me dis,
alors rapidement,
quand le président est en train de se satisfaire du social, de l'évolution infrastructure, tout ça, je me dis, est-ce que il ne roule pas à Kinshasa? Est-ce que il ne constate pas la vie de ses concitoyens? Comment est-ce qu'ils vivent avec toutes les difficultés
alors
économiques, sociales?
Mm-hmm.
Donc c'est un discours qui contraste avec la réalité.
Donc pour vous, c'est un discours négatif?
Négatif. Et puis je dirais, certes, le bilan des 15 années qu'il a fait, il a dressé, il y a eu des efforts, mais ce n'est pas positif.
Très bien. Dimanche, toutes mes excuses, vous êtes journaliste à la radio communautaire Mungano émettant depuis Oicha, c'est bien ça. Alors dites-nous, comment vous avez analysé le discours du chef de l'État à partir de chez vous à Oicha, très rapidement?
Nous avons suivi de très près comment le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a présenté son discours. Et donc pour nous, en tant que journalistes, il nous est difficile d'apprécier le discours, parce qu'un discours est composé de phrases, des mots, ainsi de suite. Et applaudir pour des mots sans que les concrets ne soient observés, c'est vraiment difficile. Et le chef de l'État, quand il parle du social à l'est du pays, on ne parvient pas à les comprendre, parce que le social, on voit l'homme, cet homme ici, qui serait le premier bénéficiaire de cette sociale dont le chef de l'État a parlé dans son discours, l'amélioration des conditions de vie. Nous, à l'Est, nous semblons ne pas être en mesure de voir concrètement et de comprendre concrètement son discours. Si peut-être il peut encore revenir, ou s'il pouvait revenir sur la fin de son mandat et dire clairement que le 19 décembre, j'ai profité de l'occasion pour dire à tous les Congolais que moi, je vais respecter envers la Constitution, je vais plier devant la loi fondamentale. C'est ce qui nous serait important pour le moment, mais il nous est difficile d'applaudir pour un discours car il n'est que composé de phrases, de mots difficiles à comprendre et qui peut-être peuvent encore changer de moment à l'autre.
Merci. Claude, vous avez déjà commencé à présenter le bilan des 15 ans de la présidence du chef de l'État. Vous pensez que son bilan est positif. Pourquoi vous le soutenez?
Oui, je crois que Joseph Kabila, c'est un leader qui a sauvé ce pays, il faut le reconnaître. Nous tous, nous étions ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, lorsqu'on a connu cette guerre qui a déchiré ce pays en 4, c'est pas 5 morceaux.
Kabila l'a sauvé comment?
Et parce que Kabila a réussi. Et lorsqu'il est venu, il a dit la phrase, je me rappelle de son premier discours le 26 janvier 2001, « J'irai partout pour faire la paix ». Et il est allé partout. Jusqu'aujourd'hui, Kabila est allé partout pour faire la paix. Jusqu'au dialogue national qui vient de se tenir à la Cité de l'Union africaine. Kabila, il a déclaré qu'il va mettre son énergie pour unifier les pays et pour faire décoller, renouer les pays avec les institutions de Breton, avec la communauté internationale, remettre la RDC sous les concerts des nations. Il l'a fait. Il a commencé à construire les pays, comme a dit M. Laurent Désiré Kabila lui-même, qu'il est venu pour construire ces pays. Et il a proposé les 5 chantiers lors de son premier mandat. Vous savez, il y a des contraintes et il y a
les 5 chantiers qui n'ont pas continué mais qui ont été transformés en
révolution de la modernité. Il y a eu des guerres, vous savez, les guerres de Mutebusi et Kunda, il y a eu les guerres de Makenga. Donc tout n'est pas rose, mais Joseph Kabila Kabange a beaucoup fait pour ce pays. Le problème, c'est quoi? De sanctionner les gens qui ne gèrent pas bien, qui ne facilitent pas la vision du chef de l'État.
Est-ce que c'est ce qu'il fait?
C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont jamais compris la vision du chef de l'État et qui sont en train de saper la vision du chef de l'État pour amener ce pays vers l'émergence. Et ce sont les gens qu'on doit sanctionner.
Mais il y a quelques années, s'il vous plaît, il y a quelques années, lui-même, le chef de l'État, avait dit que s'il avait 15 personnes autour de lui, les choses seraient avancées. Mais ces 15 personnes-là, il les a toujours pas trouvées des années plus tard.
Il les avait déjà trouvées et il a répondu à cette question. Le problème, c'est au niveau. Vous savez que les pays
mais donc on ne sent pas
gérés à différents niveaux. Mm-hmm. Le président de la République ne peut pas être partout à la fois. Il donne la vision, l'orientation des choses. Il doit y avoir des exécutants à tous les niveaux. Il y a les mandataires de l'État, il y a des ministres, il y a des directeurs généraux. Dans tous les niveaux, les gens doivent agir en toute responsabilité pour accompagner cette vision-là à atteindre l'objectif. C'est ça la grande question.
Très bien.
Nous constatons qu'aujourd'hui,
en même temps, les opposants disent que le président Kabila ne fait que violer la Constitution du jour au lendemain. Très rapide, en un mot, avant que je ne donne la parole à Stani.
Mary, ces discours, on l'a déjà entendu. Joseph Kabila n'a jamais, je souligne, il n'a jamais violé la Constitution. Il a toujours respecté la Constitution et la Constitution sera toujours respectée. Il a encore respecté l'ordre de son discours.
Et c'est un passage pour donner la parole à Stani Bouzakira.
je peux directement répondre.
Allez-y.
C'est pas normal qu'on dit qu'il n'a jamais violé la Constitution, d'autant plus que au mois de septembre, le 19 septembre, devait être convoqué les corps électoraux. Et les corps électoraux n'a pas été convoqué contre la volonté de la Constitution. Vous allez me dire que ce n'est pas violer la Constitution. Et lui, garant de la du respect de la Constitution, il n'a pas veillé à ce que cette disposition-là soit respectée. Donc, regardez, dire qu'il n'a jamais violé la Constitution, c'est exagéré.
Alors, vous voulez dire que vous ne partagez pas le positivisme du chef de l'État appuyé par Claude?
Il y a eu des efforts pendant toutes ces 15 années de Kabila au pouvoir comme président de la République, mais c'est déjà inscrit.
Quels sont ces efforts que vous avez notés particulièrement?
Non, je note que le pays est ouvert à travers le monde. Il y a quand même une diplomatie qui essaye d'entrer en contact avec le reste du monde et ça semble marcher. Et puis je constate qu'il y a eu une petite volonté de permettre qu'il y ait des infrastructures, des très bonnes infrastructures, bien qu'aujourd'hui là on retombe encore dans des toutes ces routes, toutes ces infrastructures sont presque détruites.
Mais très rapidement, comment vous analysez alors le fait que certains analystes disent que on sera dirigé par l'accord politique et non plus par la Constitution?
D'autant plus que la Constitution, si vous voulez que nous puissions rester dans la Constitution, c'est-à-dire que le 19 décembre 2016, Joseph Kabila doit quitter le pouvoir. Mais d'autant plus qu'on ira au-delà et que les élections présidentielles ne seront pas organisées comme le veut la Constitution. Donc, on convoque les corps électoraux 90 jours avant l'expiration des derniers mandats du président Kabila. C'est violer la Constitution.
Qu'est-ce que dit la Constitution sur cette question-là? Pourquoi Kengo ne démissionne pas aujourd'hui? Parce que Kengo est largement dans l'existence.
Mais Kengo ne veille pas sur le respect de la Constitution. Là, bien sûr, il n'y a qu'une seule personne qui veille sur le respect de la Constitution.
La Constitution,
il s'appelle Joseph Kabila.
Même s'il n'y avait pas dialogue, Joseph Kabila devait rester jusqu'à la remise des prix avec son successeur.
Mais il fallait veiller à l'organisation des élections.
Très bien.
Il n'a pas veillé à l'organisation des élections dans le délai, donc la Constitution est violée sous l'impulsion.
La Constitution n'est pas violée, la Constitution est violée.
Alors, dimanche, on va donner la parole à dimanche pour essayer d'essayer de vous départager parce que vous semblez ne pas être vraiment d'accord. Dimanche, comment vous avez analysé le bilan des 15 ans du chef de l'État? Est-ce que vous partagez ce positivisme-là qu'il a affiché, tel qu'appuyé par Claude, ou bien vous êtes un peu dubitatif?
Ce que nous devons dire, il ne revient pas au chef de l'État de dire aux Congolais qu'il est en train de travailler bien ou qu'il a travaillé bien, mais plutôt aux Congolais de dire au chef de l'État, monsieur le chef, nous vous félicitons pour des grandes réalisations que vous avez pu faire dans ce pays. Et donc, j'étais en train de suivre monsieur Claude de la RPC. Moi, je me demande, est-ce que Claude a-t-il déjà eu le temps de se présenter à l'est du pays, particulièrement dans les territoires de Beni, où l'on égorge les gens, la tête est écartée du tronc, les gens sont écartés du tronc, et ainsi de suite, les enfants qu'il faut tuer, les massacres par-ci par-là, je ne sais pas s'il est en train de suivre tout ça. Alors, quand il dit, le chef de l'État congolais est en train de respecter la Constitution, est-ce que M. Claude ignore que pour aujourd'hui, nous avons des gouverneurs de province qui n'ont plus qualité de diriger
les provinces-là.
Est-ce qu'il sait que nous avons des députés provinciaux qui n'ont plus mandat du peuple? Est-ce qu'il sait que dans la Constitution, il est indiqué que le mandat du chef de l'État se termine le 19 décembre? Et aujourd'hui, quand il nous dit que la Constitution est respectée, c'est une façon de clasher sur la population. C'est une façon de cracher sur la population. Et tout le monde qui est en train de l'écouter, il peut se demander, est-ce que Kinshasa est un pays à part le Nord Kivu, par exemple? Et donc, nous devons voir dans quelle ligne conduire la population. Et notre mission en tant que journaliste est d'orienter la population. Là où les choses ne sont pas faites d'aller comme il faut, nous devons dire ici, ça va, et ici, ça ne va pas. Donc, c'est la mission des journalistes.
Alors, très bien.
Les journalistes, c'est une star, c'est une étoile qui doit éclairer, qui doit montrer aux gens la bonne ligne à suivre afin que ce dernier ne puisse pas tomber dans les gouffres.
Très bien. Dimanche, très rapidement, sur le plan sécuritaire, le président Kabila a dit, je cite, « Le pays écumait une multitude de groupes armés qui, dans toute la partie Est, faisaient la loi sur près de la moitié du territoire national, se substituant au pouvoir public devenu l'ombre d'eux-mêmes. » Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une citation qui est encore d'actualité ou bien qui relève déjà du passé? Parce que le président en a parlé au passé.
Le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a encore des groupes armés. Et il a toujours dit, là, il faut t'avouer, t'as moitié pardonné. Mais je crois, nous ne pouvons pas pardonner parce que nous, population, nous savons que l'État ne doit pas se plaindre. Si le chef de l'État dit que d'une part, il y a eu amélioration des conditions sécuritaires et d'une autre part, il y a encore présence des groupes armés, mais nous disons, quel fait l'État? Et pourtant, cet État a pour mission de remettre la paix,
d'accord,
la sécurité dans toutes les entités, dans tous les territoires du pays. Donc, c'est une faille qui a été enregistrée à un certain niveau. Et peut-être le chef de l'État, quand il partira, lui-même, il faut qu'il puisse se mettre à la place des Congolais en reconnaissant qu'à un certain niveau, il a laissé sa population dans une souffrance indescriptible, particulièrement la population vivant dans les territoires de Beni, qui semble ignorer les 50% du bonheur. Elle retient seulement les 50%
du bonheur. Dimanche, je vais vous redonner donner la parole. Alors, parlons très rapidement de l'avenir politique du chef de l'État. Il a affirmé que cette question a déjà été réglée dans la Constitution parce que la RDC est une démocratie constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État va quitter le pouvoir au 19 décembre parce que nous sommes dans un pays constitutionnel? Dites-nous. Claude.
Ah, c'est bon, j'ai la parole.
Oui.
Merci. Je voudrais d'abord préciser que mon confrère dimanche qui est à Oïtia ou à Beni, Boudjakira qui est dans ce studio, ne lise pas correctement la Constitution.
Très bien.
La Constitution a tout prévu.
Très bien. Je Donc vous dis le président que... partira le 19 décembre.
Non.
Ok.
Même s'il n'y avait pas de dialogue, parce qu'au dialogue, on a dit que les élections auront lieu au mois d'avril 2018. Mm-hmm. On termine avec les opérations d'enregistrement des électeurs 31 juillet 2017. Même s'il n'y avait pas ces dialogues-là, Joseph Kabila resterait en fonction jusqu'à l'installation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution à son article 70, alinéa 2,
okay.
qui le précise, qui stipule clairement.
Donc, pour alors, vous, le président est encore en fonction.
Le président est encore en fonction, qu'il y ait élection ou pas, jusqu'à la remise et reprise.
Donc, c'est ça l'avenir.
C'est la Constitution qui l'a dit.
Est-ce que c'est ça l'avenir?
Et les dialogues. Qui... Je suis très content parce que les dialogues, on a respecté la Constitution et la résolution 2277. Il faut que nos amis lisent la Constitution.
Très bien, mais c'est ça la question.
Voilà pourquoi les assemblées provinciales sont encore en place, les gouvernements provinciaux sont encore en place, le Sénat est encore en place, et le chef de l'État est encore en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu.
Donc,
c'est la Constitution qui l'a dit.
Oui, très bien.
C'est pas vous, Jacques, qui va me contredire ici ou ça, mon ami, dimanche.
Très bien. Alors, donc, pour vous, lorsque le président Kabila parle d'une démocratie constitutionnelle, pour vous, ça signifie qu'il reste au pouvoir jusqu'à ce que, donc, qu'il y ait élection ou pas, il est au pouvoir.
C'est clair, très bien. La Constitution a réglé cette question.
On organise, donc, en paix, comme il dit. Oui, je suis d'accord que la Constitution a tout prévu. Il est dit, organiser les élections, je dois, moi, président de la République, faire respecter la Constitution, cette Constitution qui veut que l'élection présidentielle, qui doit permettre à l'élection d'un nouveau président qui doit me remplacer, se tienne avant la fin de mon mandat.
Non, toujours avant.
On convoque l'électorat. Mm-hmm. Alors, je n'ai pas pu, et je ne dirais pas que je respecte la Constitution.
Vous lisez mal la Constitution selon Claude.
Il sait très bien qu'il est dans la fausseté total, tout simplement parce qu'il dit que le président de la République doit rester. La Constitution a également prévu que si les présidents de la République ou si un groupe d'individus veut, par sa propre volonté, ne pas respecter la Constitution, la Constitution a prévu dans son article 64 que le peuple congolais fasse respecter cette Constitution. Et je pense que si, au 19 décembre, le président de la République ne quitte pas le pouvoir, j'entends une frange de l'opposition qui dit qu'il appellera la population, conformément à l'article 64 de la Constitution, l'alinéa premier, pour faire partir le président de la République.
Très bien, merci beaucoup. Dimanche, très rapidement, je vous donne 30 secondes pour nous dire si le président Kabila lui-même a déjà scellé son avenir. Ça signifie qu'au 19 décembre, il ne sera plus candidat lorsque vous avez écouté son discours.
Notre souhait est que le président respecte la Constitution. D'ailleurs, les peuples congolais ne doivent pas rappeler au chef de l'État, c'est là. C'est une chose que le numéro 1 de la République doit respecter. Et donc, nous voudrions c'est que nos dirigeants, particulièrement celui de notre pays du Congo, donnent de la valeur à la Constitution. Je ne sais jamais de le dire.
Très bien.
On ne peut pas enseigner à la population la Constitution, le respect de la Constitution, alors que les dirigeants eux-mêmes ne sont pas prêts de la respecter.
Merci. Joseph Kabila avait promis de respecter l'accord politique issu du dialogue dans son discours. C'est dans ce contexte qu'il a nommé hier jeudi un nouveau Premier ministre en remplacement de Matata Ponyo, ce qui nous conduit dans la seconde partie de notre émission. Sami Badibanga, député national élu de l'UDPS et allié, a été désigné comme nouveau Premier ministre en remplacement de Matata Ponyo, une nomination qui intervient conformément à l'article 17 de l'accord politique issu du dialogue qui stipule que le Premier ministre doit être issu de l'opposition politique signataire de cet accord. Qui est Sami Badibanga? Élément de réponse avec vous, Lievin Bouy.
Diplômé en premier lieu de l'Institut supérieur des sciences humaines de Genève en 1986, il est ensuite de l'école du Haut Conseil du Diamant d'Anvers et de l'International Gemological Institute d'Anvers. Il commence sa carrière en 1986 en tant qu'administrateur délégué de Sokodam Esperel, puis devient en 1995 administrateur et directeur général de Samex Trading Esperel. Pour son parcours politique, il faut retenir que le premier ministre nommé Sami Badibanga est membre d'honneur depuis 1994 de l'Union l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et il est élu député national de l'UDPS en 2011. Il est le conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi. À ce titre, il est chargé de la stratégie diplomatique de ce dernier pour les présidentielles de 2011. Malgré les instructions du leader de l'UDPS interdisant les 42 élus du parti, dont Sami Badibanga, de siéger, ces derniers sont allés au Parlement, considérant leur élection comme crédible et souhaitant respecter le peuple congolais qui les avait élus pour les représenter. Cette quarantaine de députés continue aujourd'hui encore de former et d'animer l'opposition parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. À la suite des élections législatives de 2011, Sami Badibanga, élu député national, constitue et mène le groupe parlementaire UDPS et Alliés face à une majorité présidentielle écrasante. Le 10 octobre dernier, alors que Badibanga participe aux travaux du dialogue qui se tenait à la Cité de l'Union africaine, certains membres du groupe parlementaire UDPS et Alliés, dont le premier vice-président Jean-Claude Vouemba, annoncent sa destitution en tant que président du groupe parlementaire au Parlement. Une destitution que Badibanga va rejeter.
Merci Liévine. Claude, est-ce que vous avez été surpris par la nomination de Sami Badibanga?
Voilà, on attendait un premier ministre qui viendrait de l'opposition. Les chefs d'État a nommé, disons que
ça circule normal. Dans les lèvres de tout le monde, sur les lèvres de tout le monde,
de toute façon, ça serait Sami Badibanga était cité parmi les candidats premier ministre. Et moi, j'ai couvert les travaux du dialogue national à la Cité de l'Union africaine plus d'un mois. J'étais tous les jours, presque tous les jours là, quand il y avait nécessité. Et Sami Badibanga, on a côtoyé avec, on échangeait avec les amis. Sami Badibanga était cité parmi les primaturables, s'il faut que je m'exprime ainsi.
Et vous pensez
parmi
que
le primaturable Kamere, Badibanga, et on a cité même les noms des autres.
Donc vous avez beaucoup de noms qui ont été cités.
Oui,
ça, donc vous n'avez pas été surpris.
Je n'ai pas été surpris, c'est normal.
Est-ce que vous avez été
surpris? Il vient de l'opposition comme l'UDPS.
Je fais d'abord constater et je constate, comme tout journaliste, est qu'après la violation de la Constitution, c'est l'accord politique ici du dialogue de la Cité des Lions africaines qui est déjà violé.
Okay.
Parce que
de quelle manière?
L'article 17 de l'accord, le point C, stipule la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale 21 jours suivant la signature de l'accord, soit à partir du 18 octobre. Et là, 29 jours après la signature de cet accord, on a le premier ministre. Très loin, on a même pas l'équipe gouvernementale. Donc je fais déjà constater que cet accord est violé. Il y a des inquiétudes quant au reste. Alors, dire que Badibanga a une surprise, je dirais oui, tout simplement parce que il y avait une personne qui a donné du sens à ces dialogues convoqués par...
Vous parlez de Vital Kamerhe.
Oui, il a donné de la crédibilité à ces dialogues. Sans Kamerhe, on n'aurait pas à avoir ces dialogues-là.
Et donc vous pensez que le chef de l'État ou la majorité présidentielle a floué Vital Kamerhe?
Kamerhe est juste victime, peut-être, d'une vengeance de la majorité présidentielle qui, jusqu'ici, n'a jamais digéré le départ de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, je vous dis que si cet accord-là de la Cité de l'Union africaine a été signé, c'est à cause de Vital Kamerhe. Et c'était lui qui était attendu, mais là, par surprise générale, Kabila surprend toujours et il vient de surprendre par la nomination de Badibanga.
Très bien, je rappelle quand même que Claude, vous avez quand même beaucoup parlé. Dimanche, du point de vue...
J'avais encore des choses à dire sur Sami Badibanga.
D'accord. Dimanche, du point de vue géopolitique, est-ce que cette nomination du Premier ministre Sami Badibanga est un apaisement en vue de la date fatidique du 19 décembre?
Dire que c'est un apaisement, je suis pas du tout d'accord avec cela qui pense que c'est un apaisement. Moi personnellement, je considère cette nomination du député Sami Badibanga comme une cacophonie que le pasteur lui-même impose au chantre d'une chorale dans son église. Pourtant, ceux-ci maîtrisent déjà le rythme de leur chanson. Parce que à un mois de la fin du mandat du chef de l'État, que feront les nouveaux premiers ministres ainsi que le président de la République lui-même? Donc je considère cela comme une cacophonie que le pasteur lui-même est après déposé au chantre de son église, parce que je crois que Sami Badibanga est un ancien membre de l'UDPS Aujourd'hui, il va œuvrer au compte de la mouvance. Est-ce que vous pensez qu'il fera le contraire de la majorité? Est-ce que vous pensez qu'il fera ce que l'opposition veut? Donc, c'est un peu un jeu de cache-cache. Et ça nous renvoie à l'histoire où il y avait certains Birindois avec M. Mobutu. Donc, nous sommes encore rentrés dans cette histoire. Et moi, personnellement, je n'espère pas à trop de changements quant à ce qui concerne la nomination de Sami Badibanga.
Très bien. Vous n'avez pas, vous n'espérez pas à un grand changement. Ça, c'est ce que dit en substance dimanche. Claude, vous me disiez que vous n'avez pas beaucoup parlé de Sami Badibanga alors que les autres en ont plus parlé. Je vous accorde une minute pour essayer de vous expliquer un peu.
Moi, je voulais pas qu'on puisse individualiser les débats sur des personnes, même si ce sont les personnes qui animent les institutions. Le problème, c'est quoi? On attendait qu'un premier ministre vienne de l'opposition.
Et le chef a tranché.
Et le chef a nommé un premier ministre qui vient de l'opposition. Et il ne parle pas n'importe
quel
premier ministre.
Une opposition qui a été récusée déjà par l'UDPS. On le reconnaît
à même Badibanga. Il a été élu député national dans ce pays sous la liste de l'UDPS.
Mais l'UDPS ne le reconnaît plus.
Conseil d'Étienne Tshisekedi de Wamulumba, il a été membre du rassemblement avec les Bruno Mavungu qui ont...
chassé du parti.
Chassé pourquoi? C'est ça le problème. Et si vous voulez te dire, là où Tshisekedi et Étienne Tshisekedi n'est pas là, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réussite, c'est du noir. Non. Aujourd'hui, nous devons démocratiser nos partis politiques. Dans tout parti politique, il doit y avoir la démocratie. C'est-à-dire que c'est ça. Moi, je prends l'exemple de Bruno Mavungu. C'est quelqu'un qui a tout milité pour la tenue du dialogue. En tant que secrétaire général de l'UDPS, il a été à Géval, il a été aux côtés de Tshisekedi. Mais voilà comment il a été remercié. Quelqu'un comme Bruno Mavungu, c'est quelqu'un sur qui l'on peut compter dans ces pays.
Et vous pensez qu'il était aussi primaturable?
Tshisekedi, en tant que secrétaire général qui a engagé les partis, on ne tient même pas compte de ses avis parce qu'on veut tribaliser et on veut familiariser les partis politiques.
Très bien. Alors, Boujaki, vous pouvez répondre rapidement.
On est tout simplement dans la logique du débauchage au niveau de la majorité présidentielle.
Pas vrai, c'est pas vrai.
C'est tout simplement dans... Nous sommes tout simplement dans cette logique. Parce qu'ils savaient bien qu'avec Kamere, ça serait la rupture avec la politique actuelle. Kamere allait imposer une ligne de conduite. Et là, avec Badibanga, je ne conteste pas les qualités Badibanga. Je ne conteste pas les compétences Badibanga. Mais tout simplement, ils savent qu'avec Badibanga, c'est la continuité. Il sera géré par les caciques de la majorité. Il est facilement gérable avec Vital Kamere. Parce qu'avec Vital Kamere, si on avait Vital Kamere à ces postes-là, il allait contrôler l'appareil politique, économique et tout, il allait avoir la même mise partout.
Très bien. Alors,
donc la majorité, je conclue pour dire que la majorité a eu tout simplement peur de la personne de Vital Kamerhe.
Très bien. Alors, dimanche, vous allez conclure. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement, de ce gouvernement? Est-ce que quelque chose de positif peut ressortir pour éviter le chaos au 19 décembre? Très rapidement, pour conclure.
Oui, si Badibanga fera des choses qui vont permettre à la République d'évoluer, nous, citoyens congolais, nous allons applaudir. Mais nous craignons une chose, celle de prolonger encore la famille politique de la majorité, étant donné que Badibanga a été choisi par le chef de l'État, et je crois qu'il ne pourra pas faire le contraire de la volonté du chef de l'État. Mais s'il fera le contraire, nous, population congolaise, nous allons applaudir pour lui.
Merci beaucoup, ce sera votre conclusion. Claude, en guise de conclusion.
Moi, j'ai dit que les pays...
Est-ce qu'il va faire quelque chose?
Oui, je suis convaincu que Sami Badibanga, c'est quelqu'un qui a de l'expérience politique. Il a eu à gérer quelque part. Vous avez suivi son parcours. Et c'est quelqu'un qui vient de l'opposition. Et le chef de l'État a respecté les textes qui nous régissent. Il a toujours respecté ses engagements jusqu'au bout. Il les respectera. Et il a nommé Sami Badibanga en connaissance des causes.
Merci.
Et Sami Badibanga a beaucoup de chances de réussir et nous amener aux élections.
Très bien. Boujaki, en guise de conclusion.
J'ai des inquiétudes seulement pour les respects de cet accord avec Sami Badibanga. Je vous rassure qu'il sera seulement géré, contenu par la majorité présidentielle. Il ne va pas peser dans la prise de décision. Il va tout simplement, d'après certains observateurs, accompagner la majorité présidentielle dans sa logique de réviser la constitution l'année prochaine pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir.
Merci, ce sera la fin de la tribune de presse pour ce soir. Jean-Claude Thial a été à la prise de son. Guy Mathieu a coordonné cette émission. Béry Franklin Louchaka vous dit merci de nous avoir suivis. Remarques et suggestions, écrivez-nous à dec@radiookapi.net. Et surtout, retrouvez votre émission sur www.radiookapi.net. Merci de rester fidèle au programme de Radio Okapi. Bye bye, bon week-end.